Alors les amis, on est parti pour notre deuxième partie sur la Torah du Rav Avraham Yitzhak Cohen. Donc on a commencé la semaine dernière à faire un petit peu son curriculum vitae, à faire un petit peu les différentes étapes de sa vie. Aujourd'hui, on va commencer par évoquer le fait qu'il a éveillé toutes les passions. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rabbin que personne, qu'il ne laissait personne indifférent. Soit tu étais amoureux de lui, soit tu étais anti, mais dans tous les cas, le Rav Kook est devenu un personnage clé, clé pour la transmission de la Torah pour notre génération au début du XXe siècle. J'aimerais d'abord qu'on dise les choses très clairement. Évidemment, dans le monde sioniste, on voit le Rav Kook comme étant le patron des patrons. Mais est-ce qu'il n'y a que le monde sioniste qui le voit comme un patron, ou est-ce que le Rav Kook était considéré dans le monde juif en général comme étant un patron? Alors, on a dit la semaine dernière que par rapport, par exemple, à son Mechoutan, ce qui était également son maître, à Aderet, qui était le Rav Rabinovitch, qui était déjà extrêmement réputé, il dit « J'ai choisi un gendre auquel je n'arrive pas à la cheville. » Mais qu'en est-il des rabbins, on va dire, un petit peu plus connus? Pourquoi je dis connus? Parce que le Haderet, je ne sais pas si tout le monde connaît le Haderet. Par contre, tout le monde connaît le Chazon Ish. Eh bien, le Chazon Ish, Rabbi Yeshaya Karelitz, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, eh bien, il n'y a qu'une seule personne dans un premier temps que le Chazon Ish appelle Maran dans ses lettres. Et cette personne, ben, c'est le Rav Kook. Après, il rajoutera deux, trois autres personnes, mais Maran, au départ, c'est le Rav Kook. C'est-à-dire que même s'il n'est pas d'accord avec lui, tout le monde reconnaît la grandeur du Rav. On avait parlé du Chafetz Chaim, qui disait, lorsque la Torah est debout, comment est-ce que je peux m'asseoir? Mais qu'est-ce qui fait la grandeur du Rav? Bien, les amis, nous allons commencer un peu à rentrer dans l'univers du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Et l'univers du Rav Cook commence par une compréhension extrême de son époque. Eh oui, vous comprenez bien qu'il va se passer à l'époque du Rav Cook quelque chose qui nécessite une prise de conscience. Lorsque le Rav Cook naît en 1860, eh bien, plus ou moins, 1865, 1865, eh bien, plus ou moins, l'écrasante majorité du peuple juif est religieuse. L'émancipation a commencé, mais on n'en est qu'à l'époque au balbutiement. Lorsque le Rav Kook meurt, 70 ans plus tard, ce n'est plus que à peine 20% du peuple juif qui se revendique comme religieux. Vous comprenez donc que en 70 ans, qui n'est rien pour l'échelle humaine, eh bien, l'écrasante majorité du peuple juif a abandonné la Torah. Il ne s'agit pas ici, vous savez, de tout temps, il y a eu des gens qui ne respectaient pas la Torah. Mais là, il ne s'agit pas d'un ou deux personnages. Il s'agit de 80% du peuple juif qui décide de renier la Torah. Ça ne peut pas être anodin. Donc, le chilonisme de masse, c'est un premier événement que le Rav Kook va devoir, auquel va, il va devoir faire face. Le deuxième événement, c'est dans toute l'Europe et dans le peuple juif, la vague de nationalisme qui, au sein du peuple juif, va s'appeler sionisme politique. Le Rav Kook fait face à ces deux dimensions qui n'existaient pas auparavant. Alors, vous allez me dire, le sionisme existait peut-être chez les tzadikim. Je parle en tant que projet de masse. Et là, il faut bien comprendre la grandeur du Rav Kook. Il y a dans la tfila de Shmoneh Esrei, dans la tfila de tous les jours, il y a une bracha qui est très particulière, puisque dans le processus de la Géoula, qui commence dans la Amida à la bracha de Teka Beshofar Gadol Lecherutenu, eh bien, dans le processus de la Géoula, on va avoir une bracha entière pour les tzadikim. À la tzadikim, va la chassidim, va zikne sherit amecha bet Israël. Le Rav Kook pose la question dans son commentaire de la Tefila au Latreia. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une bracha particulière pour les tzadikim dans la Géoula? Eh bien, il dit parce que le danger des tzadikim, la terreur des tzadikim, c'est lorsque le monde bouge, lorsque le monde change. Ben oui, parce que moi, je suis tzadik, donc d'où j'ai appris à être tzadik? Ben de mon maître, qui lui-même l'avait appris de son maître, et ainsi de suite. Et donc, lorsque mon monde est le même que celui qu'a vécu mon maître, eh bien, en fait, je suis armé à l'affronter. Je sais plus ou moins quels vont être les grands débats, les grands dilemmes, les grandes questions. Je gère. J'ai appris de mon maître. Mais lorsque le monde dans lequel moi je vis n'a plus rien à voir avec le monde qui m'a été transmis par mon maître, comment gérer? Eh bien, c'est de cela dont on parle avec le Rav Kook. Le Rav Kook fait face aux deux plus grands événements de l'histoire du peuple juif. Le nationalisme, c'est-à-dire la volonté d'un retour à une dimension collective après 2000 ans d'exil, et l'abandon de la Torah. Et ça va de pair. Comment est-ce possible? Le Rav Kook expliquera que ces deux dimensions, et c'est ça la base de sa Torah, ces deux dimensions sont des dimensions complémentaires. Et elles font partie du processus de la Géoula. Comment? Le processus de la Géoula entraînerait un abandon de la Torah? Eh bien, les amis, oui, le cheval de bataille de la Torah du Rav Kook, qui va puiser dans ses différents livres, et on verra juste après les différents livres, mais qui va puiser dans tout l'enseignement de la Kabbalah, va nous expliquer que l'abandon de la Torah du peuple juif ne vient pas parce que le peuple juif est petit, mécréant, éloigné de son âme, mais bien au contraire, elle vient grâce à la grandeur de son âme. C'est une preuve de grandeur du peuple juif que d'abandonner la Torah. Je crois que la Torah, c'était bien. Oui. Mais le problème, c'est que la Torah, pendant 2000 ans, a été une Torah d'exil. Une Torah d'exil voulait donc dire une petite Torah. Une Torah qui se limite aux quatre coudées de la halakha. Une Torah qui ne parle plus ou moins qu'à l'individu. La génération de la fin du 19e siècle et du début du 20e dit au monde de la Torah, mais enfin, c'est ça votre Torah? Ma pitom, j'en veux pas. Alors, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va faire le lien avec l'actualité, mais il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines, il y a une députée à la Knesset qui a fait un discours extrêmement poignant sur le système éducatif en Israël et est venue porter une accusation très grave sur ce qu'on appelle le monde du chinour mamlarti. Vous savez, en Israël, il y a deux maréchat chinour, il y en a trois, mais il y a le mamlarti, c'est-à-dire on pourrait appeler ça l'école laïque de la République, et puis il y a l'école, le chinour mamlarti dati, qui est également l'école de l'État, mais qui est ouvertement une école religieuse à l'intérieur de l'État. Après, vous avez les écoles qui sont non mamlartiotes, elles peuvent être soit charédiotes, soit araviotes. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Nous dit cette députée, au monde Mamlarti, qui était donc l'école laïque de la République, vous m'avez volé. Vous m'avez volé mon identité. Vous m'avez empêché de connaître la grandeur de la Torah. Alors, elle a totalement raison sur ce qu'elle dit. Mais pourquoi, à l'origine, on a abandonné la Torah? Eh bien, parce que la Torah qui n'était proposée était la Torah du schnitzel. C'est-à-dire, la Torah qui était proposée, c'était comment on sait si le schnitzel est cachère? Comment on doit faire Shabbat? Comment je dois vérifier la culotte, excusez-moi, de ma femme pour savoir si la tache de sang est grande ou pas grande? Et je caricature évidemment, mais c'est plus ou moins ça dont on s'occupait au niveau religieux. Ou alors, non, il y a mieux aussi. On s'occupe à étudier pendant des heures des pages d'un Talmud qui nous parlent de cas qui ne peuvent pas se reproduire aujourd'hui. Et donc les gens ont dit, c'est ça votre Torah? J'en veux pas. Alors bref, une Torah pratique et puis bête, une Torah ktana. Nous dit le Rav Kook, l'abandon de cette Torah-là fait preuve d'une grandeur d'âme. Car le peuple juif veut une grande Torah. Et nous explique le Rav Kook, alors oui, mais certains arrivent à faire le switch. Certains arrivent à sauter le pas de la petite Torah pour attraper le barreau de la grande Torah sans abandonner rien du tout. Et oui, mais ça, ce sont les Yechidei Segoula. La majorité des gens, ils vont d'abord balancer ce qu'ils reconnaissent comme étant obsolète pour laisser la place petit à petit à une grande Torah pour entrer en eux. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il y a un passage entre les deux. Et ce passage entre les deux, eh bien, c'est la génération du Rav Kook. L'une des grandes ta'anot, l'une des grandes problématiques des gens qui ont abandonné la Torah à l'époque du Rav Kook, c'est de dire, mais enfin, monsieur les rabbins, ne voyez-vous pas que la volonté de revenir sur notre terre et de retrouver une vie nationale, c'est quelque chose d'important? Ben non. La majorité des rabbins de son époque, au Rav Kook, n'y voyaient pas quelque chose d'important. Alors attention, il y a des circonstances atténuantes dans les deux cas. On a expliqué les circonstances atténuantes du peuple juif qui a abandonné la Torah. Quelles sont les circonstances atténuantes du monde rabbinique qui n'a pas voulu rentrer là-dedans? Ben, ils avaient peur qu'on perde notre identité. Ils avaient tort comme les autres avaient tort. Mais la réalité était là. Le Rav Kook va enseigner une Torah qui non seulement est grande, mais en plus est collective. Et vous devez comprendre que c'est uniquement l'enseignement du Sod, de la Kabbalah, qui va permettre au Rav Kook de mixer, de faire se réunir les deux mondes. Le concept de Klipa Akodemet Lapri, que l'écorce précède le fruit, eh bien, c'est un concept que si tu ne l'as pas, lorsque tu vois l'écorce, tu te dis, c'est bon acheté. Parce que tu ne sais pas qu'il y a un fruit à l'intérieur extraordinaire. Quand tu vois le monde qui a abandonné la Torah, si tu n'as pas la Torah Tassot derrière toi, tu te dis, ce monde-là, il est bon à mettre à la poubelle. Débarrassons-nous-en. Lorsque tu as la Kabbalah, tu sais que ce monde-là n'est qu'une préparation à. Il y avait un écrivain très connu en Israël et très anti-religieux, qui s'appelle Amos Oz. Et Amos Oz a dit une fois, le Rav Kook était déjà décédé, mais il a dit une fois, le Rav Kook pense que je fais partie de son processus de la Géoula. Eh bien, sache, monsieur le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton processus de la délivrance. Alors le Rav Kook était déjà mort, il ne pouvait pas répondre, mais c'est son fils qui a répondu, le Rav Tzvi Yehuda. Et il a dit, ce que Amos Oz ne sait pas, c'est que même son refus de faire partie du processus de la Géoula, fait partie du processus de la Géoula. Et c'est ça, la grandeur de la Torah du Rav Kook. Une Torah complètement ancrée dans les racines de l'ancien monde et une Torah complètement tournée vers la réalité du peuple juif et du dévoilement divin. Je vais vous donner quelques exemples. Vous saurez certainement qu'il y a des gens pour qui ce qui est important, c'est eux. Ça existe. Des gens pour qui ce qui est important, c'est eux, tant au niveau non religieux qu'au niveau religieux. Il y a des gens qui disent le plus important, c'est la sotte Kesef. Est-ce que le Rav était-il le seul à discerner le tournant du peuple? Tchouva, lo. C'était pas le seul. On avait parlé du Rav Mohaliver, on avait parlé du Rav Kalischer, du Rav Gutmacher, du Rav Chayal Kalai, et j'en passais des meilleurs, du Rabbi Moshe Rafona Cohen. Mais le Rav Kook va être celui qui va avoir le plus grand impact. Ok ? Donc je reviens sur mon histoire. Donc, il y a des gens pour qui l'important c'est de faire du kesef. Pourquoi ? Pour partir en vacances. D'accord ? Et il y a des gens pour qui le plus important c'est mon Olam Haba. Donc je vais faire plein de mitzvot parce que ce qui est important c'est mon Olam Haba. Les autres, m'en fous. Il y a d'autres sortes de personnes pour qui le plus important, c'est le peuple juif. C'est pas eux, c'est le peuple juif. Que ce soit au niveau religieux ou au niveau non religieux. Tu as des gens qui sont pas religieux du tout, mais qui se font tatouer sur tout le torse « Am Israël Chai » et qui sont toujours en train de devenir volontaires en Milouim pour aller sauver le peuple juif. D'un autre côté, tu as des gens avec leur kippot qui ne vivent que pour Am Israël et qui sont impliqués dans 47 organisations, dans 47 amoutot et qui ne sont jamais à la maison. Qui ne voient jamais femme et enfant parce qu'ils sont tout le temps occupés au peuple juif. Il y a d'autres gens qui sont des amoureux de l'humanité. Pour qui ? Il n'y a pas de séparation, nous sommes tous des êtres humains sur cette planète et nous devons être humanistes. Il y en a dans le monde religieux, comme il y en a dans le monde non religieux. Et puis il y a des gens assez peu nombreux, il faut bien le dire, et encore moins dans le monde religieux, mais qui pensent qu'en fait le plus important c'est la survie de la planète. Dans une réalité non rafkoukienne, eh bien, chacun des quatre camps est séparé. Les uns ne parlent pas avec les autres, qui ne parlent pas avec les troisièmes, et encore moins avec les quatrièmes. Nous dit le Rav Kook, dans un texte qu'on va trouver dans le livre Orot HaKodesh, sur un texte qui s'appelle Shir Meruba, la chanson quadruple, que ces quatre dimensions-là doivent être connectées par une cinquième chanson qui s'appelle « Shir Hashirim Asher Lishlomo ». Et qui doit chanter cette chanson-là? Celui qui chante la chanson de Dieu. « Shir El, Israël ». Nous dit le Rav Kook, ces quatre dimensions sont nécessaires. Et c'est le peuple juif qui doit être capable de réunir ces quatre dimensions. L'unité est la pierre de lance de la Torah du Rav Kook. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, être figé dans le passé ne pourra jamais nous permettre d'appréhender le dévoilement de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un homme, à l'époque du Rav Kook, qui a réussi à extraire de l'huile de sésame. Il est très content. Et il vient voir le Rav Kook, qui est le rabbin de Yafo et des Moshavot à l'époque, pour lui demander une Teoudat Kashrout pour Pessah. Vous allez me dire quel est le problème. Hein, n'oubliez pas qu'il y a une grande majorité d'Ashkenazim à cet endroit-là. Il avait souvent des références sur la Torah et les prophètes. Comment prévoir l'imprévisible? Attends, c'est pas la fin du truc. Chat, où es-tu? Comment prévoir l'imprévisible, le jaillissement de nouvelles situations, donc une nouvelle Torah? Mais justement, quand tu étudies les prophètes, alors tu peux te projeter, bien sûr. Et donc, je vous donne un autre exemple. Lorsque cet homme invente le moyen de sortir de l'huile de sésame et qu'il demande une Teoudat Kashrout au Rav Kook pour Pessah, il y a tout le problème de Kitniot. Vous savez, chez les Ashkenazim, c'est quelque chose de très très important. Et le Rav Kook va lui donner sa Teoudat Kashrout. Et ni une ni deux, tous les rabbins de Jérusalem lui tombent dessus en disant: mais comment tu peux faire ça? C'est Kitniot. Et le Rav Kook va leur expliquer deux, trois choses. D'abord, il va leur expliquer au niveau halakhique pourquoi ce n'est pas Kitniot. Et il va montrer en cela toute sa grandeur de Possek Halakha. En substance, il dit que tout d'abord, ce qui n'existait pas à l'époque de la Xéra des Chachamim ne peut pas être Kitniot. Parce que les Chachamim ont mis dans leur Xéra certains produits et pas d'autres. Donc ce qui n'était pas dans la Xéra ne peut pas être Kitniot tout d'un coup au XXe siècle. Donc le soja n'est pas Kitniot. Le quinoa n'est pas Kitniot. Même si c'est marqué dessus, voilà. Mais, nous dit le Rav Kook, l'huile, c'est pas Kitniot non plus. Pourquoi c'est pas Kitniot? Eh bien, parce que le danger du Kitniot, c'est qu'il était transporté à côté des choses qui sont du domaine des céréales. Mais lorsque tu as sorti de l'huile, il n'y a plus de risque de mélange avec des céréales. Donc, Rabotai, nous dit le Rav Kook, c'est l'eau qui clignote. D'autant plus que les Chachamim n'ont pas fait la Xéra sur l'huile. Et lorsque les rabbins de Jérusalem lui disent: écoute, on n'a plus d'arguments à te proposer, mais ça sera quand même interdit. À ce moment-là, le Rav Kook va expliquer un concept très important. Il dit, cette tendance à vouloir les achmir, alors qu'il y a des moyens clairs dans la Torah de permettre, ce n'est en aucun cas une preuve de religiosité. C'est au contraire une preuve de ceux qui n'étudient pas la Kabbalah. Et comme il n'étudie pas la Kabbalah, Etz HaChaim, mais il n'étudie que Etz HaDaat Tov Vara, eh bien, il se trompe et Dieu ne les aide pas à bien comprendre la halakha. Et ils permettent ce qui est interdit et ils interdisent ce qui est permis. Terrible. Rabotai, un autre pilier de la Torah du Rav Kook, c'est être capable de les attirer. Koach de Terra Adif. L'autre grande particularité de la Torah du Rav Kook, c'est le changement de langage. Vous prenez un livre du Harizal, le Harizal a inventé un langage. Le langage des Partsoufim, le langage des Sfirot, personne n'en parle avant lui. Mais non, ce n'est pas qu'il invente une nouvelle Torah, c'est un autre langage. Les choses étaient connues, mais sous d'autres noms avant. Le Rav Kook également va changer de langage. C'est quoi le langage du Rav Kook? Eh bien, c'est un langage que les gens, et non pas les Mekoubalim, mais que les gens vont comprendre. Alors là, vous allez me dire, oui, non, mais quand on lit le Rav Kook aujourd'hui, on ne comprend rien. Bon, ça c'est normal. Ça, c'est parce que D'abord, un, on vit 120 ans plus tard, et deux, parce que le Rav Kook était un homme de lettres. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne comprend pas. Il y a des livres qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Par exemple, le livre Ma'amré à Reiya est plus facile, Igrot Reiya est plus facile. Mais quel est le changement de langage? Il y avait la Agouda des rabbins de Hongrie qui a envoyé une lettre au Rav Tzvi Yehuda Kouk, du vivant de son père, en disant: comment ça se fait que ton père, le Rav Kouk, change la façon d'enseigner la Torah et ne parle plus Belachon Torah Tenu Akedosha, mais parle Belachon national? Pourquoi est-ce que le Rav Kouk, il parle un langage nationaliste? Et le Rav Tzvi Yehuda répond au nom de son père en disant: mais ça, c'est midiné tochecha. Oui, nous avons une halakha dans la Torah. Lorsque vous devez, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, vous devez lui faire une remontrance. Seulement dans la halakha, tu dois lui parler un langage qu'il comprendra. Pas seulement en hébreu ou en français, mais que les concepts utilisés pour lui expliquer fassent partie de son monde. Nous dit le Rav Kook: mais moi, si je parle aux chilonim en leur disant Avala Gemur et Omeres, mais ils ne vont pas m'écouter parce qu'ils ne comprendront pas. Mais si je leur parle de nationalisme et qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne se rendent pas compte, mais en fait, tout ce que je dis, Zegmarot, Vezet Torah, mais je ne cite pas le mot Torah. À ce moment-là, le message de la Torah peut leur parler. Donc la Torah du Rav Kook, c'est la Torah de l'unité et la Torah qui est audible, une Torah qui puise ses sources dans la Kabbalah, dans les prophètes, mais qui est audible. Et puis, il y a également une autre dimension très importante. Pour le Rav Kook, il y a deux sortes d'enseignements. Il y a les enseignements qui vont amener des nouvelles façons de voir le monde et des enseignements qui nous rattachent à notre tradition. C'est deux choses différentes. Les nouvelles façons de voir le monde s'appellent des orot. Orot ne veut pas seulement dire lumière, mais veut dire façon de voir les choses. Comme on dit, à la lumière de ce témoignage, je comprends autrement. Donc tous les livres que le Rav Kook appelle Oroth, que ce soit le livre Oroth tout court, ou alors Oroth HaTehillah, Oroth HaTorah, Oroth HaTshuva, Oroth HaKodesh, eh bien tous ces livres-là, leur rôle est de percevoir la nouvelle compréhension pour mieux aborder la relation avec Dieu. Pour ce qui est du livre de Horoth, ben ce n'est pas compliqué. Horoth Eretz Israël, première partie de Horoth, c'est eh bien, de comprendre la valeur de ce que c'est la terre d'Israël. C'est très important à une époque où le sionisme fait des heures supplémentaires. Quelle est la valeur intrinsèque de la terre d'Israël? Horoth HaMilchama, comprendre quel va être le nouveau monde suite à la guerre. Horoth Israël Utriyato et Horoth HaTechiya, les lumières de la résurrection. Mais oui, le peuple juif, tu ne peux plus le considérer de la même façon il y a 200 ans et aujourd'hui. Oroth HaTorah, tu ne peux plus étudier la Torah de la même façon. Oroth HaTeshuva, la Teshuva n'est plus seulement la correction de ma faute. Oroth HaKodesh, mon lien avec la spiritualité ne peut plus s'intégrer simplement dans une vie détachée du reste du monde. Donc tous les livres qui sont les livres Orot, Rabotai, eh bien, sont les livres qui nous permettent de comprendre une nouvelle façon de comprendre. Oui, un nouvel éclairage pour comprendre les événements, en somme, évidemment. Mais il y a d'autres livres qui sont les livres pour nous rattacher à notre tradition. Et oui, car on a tendance à penser que le Rav Kook n'était pas un grand Possek Halakha. C'était bien mal le connaître. Tous les livres de Halakha du Rav Kook sont fondamentaux. Shabbat Haaretz, Mishpat Kohen, Eder Haikar, bon ça c'est pas tellement sur la Halakha, mais... Et surtout, Halakha Berura. On va prendre toutes les sougyot de la Guémara pour les amener jusqu'à la Halakha. Il y a un livre que je vous conseille d'ailleurs si vous aimez la Halakha et si vous aimez le Rav Kook. Le livre qui s'appelle Kemaré Abazak. Kemaré Abazak, c'est un recueil selon les parashiot de toutes les halakhot que le Rav Kook a sorti des parashiot. C'est très intéressant. Bon, évidemment, si on est déjà dans les livres nouveaux, je vous invite également à étudier les livres qui sont sortis grâce au Beit HaMidrash du Rav Zini, Chumash HaRe'iyah. En fait, c'est le commentaire du Rav Kook sur les Chamisha Chumshei Torah, mais pas selon la halakha, mais plus au niveau de la compréhension de la paracha. D'ailleurs, c'est les nouveaux livres qui sont sortis qui suivent, si vous voulez, la paracha Tachavou. Bekitsour, donc, la Torah du Rav Kook, eh bien, est une Torah qui est totalement liée à son époque. Oui, mais attention. Totalement lié à son époque, mais qu'en est-il de sa relation avec les gens de son époque? Qu'en est-il de la relation qu'il entretient avec les autres rabbins? Où étaient-ils ces livres avant? Eh bien, ces livres avant n'étaient pas organisés en livres. C'est-à-dire que Kemaré Abazak, c'est un travail extraordinaire qui a été fait où on a pris toutes les choses qu'il y avait dans les différents livres de Halakha et on les a ordonnées selon la paracha. Pareil pour Chumash HaRe'iyah, le Rav Kook a énormément expliqué des choses qui sont en rapport avec la paracha, mais sans jamais faire un truc selon l'ordre de la paracha. Donc il y a des gens qui ont fait un travail extraordinaire où ils ont pris cette phrase-là de ce livre-là, cette phrase-là de ce livre-là, qui sont en rapport avec la paracha de Trouma, Tetzaveh, et donc on l'a mis dans le commentaire du Rav Kook sur la paracha de Tetzaveh. D'ailleurs, c'est un travail titanesque et magnifique. Ok? Bekitsour, quelle est la relation qu'entretient le Rav Kook avec les différents personnages de son époque? D'abord, sachez qu'il y avait chez lui un tiche. Pas un tiche chassidique, parce que ce n'est pas un rabbi chassidique, mais un Seouda Shlichit. Tous les Shabbats, Seouda Shlichit chez le Rav Kook, quand il était encore à Yafo. Et les gens se sont passés le mot. C'était l'endroit où il fallait être. C'était the place to be. Tout le monde allait là-bas, mais personne ne comprenait rien. Mais tout le monde sortait de là-bas en disant, bah, ça valait le coup quand même. Et parmi les gens qu'on trouvait là-bas, il y avait Shai Agnon, il y avait Bialik, il y avait Brenner, il y avait tous les grands noms, si vous voulez, de la construction du futur État d'Israël, qui se retrouvaient chez le Rav Kook à Seouda Shlichit. Ambiance. Peut-on avoir les livres de Rav Kook traduits en français? À ma connaissance, il n'y a que le travail du Rav Ben Shushan. Qui est sorti là. Oroth, les deux premières parties, si je ne me trompe pas, Oroth, Eret Israël, Amilchama et aussi le Maalach Haïdéot Beisraël. Crois que c'est tout. Si quelqu'un a une autre info, dites-moi, mais je crois que c'est tout. Voilà, qui a été traduit en français. Sinon, vous avez oralement les enseignements du Rav Cherki, ne serait-ce que ici sur Oroth. Ah, le Rav Benogros a traduit Oroth à Teshuvah. C'est vrai, j'avais oublié, tout à fait. Et sinon, vous avez aussi votre serviteur qui a, sur sa chaîne YouTube, fait les pratiquement jusqu'à la fin de Oroth HaTriyah. Et si quelqu'un a envie, parce qu'il ne sait pas quoi faire de ses journées, eh bien de prendre les enseignements et de les mettre par écrit, eh bien, tavo alav beracha, bien évidemment. Oui, parce que moi, je ne vais pas le faire. Oui, voilà, je te le dis, je te le dis. Je préfère te le dire. Il y a des gens qui sont Torah chez Birtav, il y a des gens qui sont Torah chez BLP. C'est tout. Il y a des gens qui ont la flemme. C'est tout, c'est tout. Bekitsour, Rabotai. Donc voilà, on en est là. Pour ce qui est, par exemple, vous parlez de Orot HaTshuva. Quelle est la grande nouveauté de Orot HaTshuva? Eh bien, la grande nouveauté de Orot HaTshuva, c'est de nous expliquer que la Teshuva n'est pas le retour des fautes, mais le retour de mon identité vers Dieu, même quand je n'ai pas fauté. Le grand chidouche de Orot HaTeshuva, c'est de nous dire que faire du sport, c'est Torah. Hein? Mais oui, être en bonne santé, c'est Torah. Alors, pas seulement parce que Venishmartem me'od al nafshoterem, parce que nous avons une mitzvah de ne pas détruire notre corps, mais au-delà de cela, parce que si on veut pouvoir reconstruire un pays, un peuple, une identité collective, eh bien, il faut que on soit en bonne santé, qu'on soit fort. Pashut. Pashut me'od. Lorsque le Rav Kook nous enseigne dans Orot HaTorah que la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé ne sont pas l'une l'explication de l'autre, mais que les deux nous enseignent deux moyens différents de Dieu de se dévoiler, c'est un chidouche énorme. Parce que je pense que même ici, alors que vous avez déjà étudié plein de fois, vous savez bien que la majorité des gens se disent que la Torah écrite, que la Torah, la Torah orale est l'explication de la Torah écrite. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce que les deux ont été donnés quand? Au Har Sinaï. Et pour être exact, en vrai, la Torah orale a précédé la Torah écrite. Donc comment est-ce qu'elle peut en être son explication? Ben oui, il y a marqué. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël va amarta alehem va sulahem tzitzit. Al kanfe bigdehem, blablabla. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces phrases? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël. Donc Dieu dit à Moshe de parler au Bene Israël, de leur enseigner la Torah, c'est-à-dire de ce qu'il vient de lui-même étudier. Et au moment où Moshe enseigne au peuple juif la Torah orale, ce qu'il a reçu de Dieu, cette Torah n'est pas écrite. Donc il est évident que la Torah, elle est d'abord par orale et ensuite par écrit. Même type de chidouche sur le Midrash par le Rav Yaakov Gordine. Oui, mais, et sans vouloir minimiser l'apport du Rav Gordine, Gordin, ça dépend de comment on dit, et son influence sur le Rav Kook, sur le Rav, sur Manitou, il n'empêche que je suis désolé, hein, je vais, c'est pas cool, mais on n'est pas dans la même division. Même s'il est évident que le Rav Gordin est un très très grand ami du XXe siècle, et qui va énormément influencer Benito, il n'y a aucun problème, le Rav Kook, c'est quand même autre chose. Très chachou. Abotai, le Rav Kook va dire une phrase qui va, je ne le connaissais pas personnellement, mais très certainement qui va marquer à quel point ça lui fait mal à l'intérieur. Le Rav Kook, il dit de lui-même, Ineni roet or Eliyahu oler uba. Et je vois la lumière de la névoie. Est-ce que le Rav Kook était prophète? Tu vas l'eau, officiellement du moins non. Mais est-ce qu'il poussait pour cela? Bien oui. Car la prophétie, c'est le seul moyen de se connecter véritablement à Dieu. Mais que vous dire? Peut-être que l'un des cris de douleur les plus importants du Rav Kook va être l'un de ses derniers discours. L'un de ses derniers discours, le discours de Rosh Hashanah, 1 an et demi avant sa mort. Le discours qu'on appelle les Shofarot. Lorsque le Rav Kook explique que la Géoula, ben la Géoula, c'est entre autres le retour du peuple juif en terre d'Israël. Mais que faire lorsque le processus de la Géoula commence et que le peuple juif ne veut pas venir en Israël? Bien, dit le Rav Kook, il y a trois sortes de chauffards. Vous le savez. Le grand chauffard, qui fait référence à l'appel d'Akadosh Baruch Hu à toi, toi, toi et moi, de revenir en Israël. Par exemple, pour Rivière Yann. Alors, soit tu es dans une pièce extrêmement sombre, soit tu n'es pas en Israël. Parce qu'à la lueur du feu et dans la pénombre, c'est quand même très exotique.
Il n'est pas en Israël, alors.
Ben oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il t'appelle, il te dit, mais reviens! Alors, il y en a qui vont écouter le shofar Gadol, qui vont dire, t'inquiète pas, j'ai déjà mon billet. Et bien, il y en a qui vont écouter, non pas le shofar Gadol, qui est l'appel de Dieu, mais le shofar Benoni, qui est l'appel du peuple, qui dit, moi, j'ai envie de revenir en Israël parce que j'ai envie de retrouver une terre où mon peuple pourra s'exprimer normalement, en tant que peuple. Et puis, il y a ceux qui n'écoutent ni le premier chauffard ni le deuxième, et pour qui Dieu envoie le chauffard Katan. Et c'est quoi le chauffard Katan? Eh bien, c'est la persécution. Persécution, les pogroms. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kook qu'on est en septembre, Rosh Hashanah, 1933. Nous dit le Rav Kook, le chauffard Katan aujourd'hui, il a un nom. Il s'appelle Hitler. On est en septembre 33. Il n'y a pas encore eu de loi antisémite. La Shoah, elle aura lieu dans 6 ans. Même pas. La Deuxième Guerre mondiale dans 6 ans. La Shoah dans 7 ans et demi. Mais le Rav Kook qui te dit, ça sent pas bon. Et si tu as étudié les prophètes, ça ne sent pas bon du tout. Et le Rav Kook dit, attention, notre tfila, elle est teka b'shofar gadol l'chérouten. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à attendre le shofar benoni ou katan. Nous voulons nous rattacher à Dieu parce que nous voulons nous rattacher à Dieu. Mais être conscient des dangers de sa réalité, eh bien, sera son combat du quotidien. Le Rav Kook se battra pour qu'on puisse faire ressentir le chauffard au Kotel. C'est-à-dire, quel problème? À Rosh Hashanah, je parle. Quel problème? Les Anglais, ils ont dit non, on n'a pas le droit de sonner du chauffard parce que ça dérange les Arabes. Et le Rav Kook va se battre pour qu'on sonne du chauffard. Mazé. Le Rav Kook signer toutes ses lettres par une formule fantastique. Et c'est par là que nous terminerons. Le Rav Kook signait toutes ses lettres en disant « Eved le'am kadosh ». Je ne suis que le serviteur d'un peuple qui dévoile la Kadosh Baruch. Eved le Am Kadosh. Eh bien, c'est ça la grandeur du Rav. Une Torah collective, une Torah klalite, une Torah goélette qui dévoile la Géoula au quotidien, mais une Torah qui, tout en sachant parler à la nouvelle génération, ne se détache pas de ses racines, une Torah qui transcende les âges, une Torah qui est celle qui nous ramène en terre d'Israël et redonne au peuple juif le ta'am, la raison profonde de ce qu'il est en train de vivre. Voilà l'enseignement du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. Il ne pourra pas voir la création de l'État d'Israël, il mourra en 1935, mais on l'a déjà dit et je le redis pour conclure, il dira tout de même que l'État d'Israël, qui n'est pas encore créé, mais il sait que ça va arriver, où Yesod Kiseh Hashem Baolam, c'est la base du trône céleste dans le monde. Chazak Baruch, Félicia.
Oui, Toda Rav, pour tous ces mots sur le Rav Kook, je voudrais juste vous dire que j'ai eu la schout d'être ce Shabbat, Tetzaveh, à l'hôtel de Sheva Kshatot à
Ah
Jérusalem,
oui,
à
bien sûr.
Haran. Et il y avait là-bas des gens, je peux pas, je suis très émue, des garçons. Des jeunes, des plus moins jeunes, des parents qui ont perdu leurs enfants dans cette guerre et qui parlent de cette découverte de Shofar Gadol, Anak, qui ont donné leur vie, comment ils ont couru pour sauver leurs frères qui connaissaient même pas. Je dois vous dire que nous avons passé 25 heures de mamash. D'une élévation extrême et surtout, bon, je vais peut-être pas citer les noms des gens qui sont venus parce que c'est il faut y être. Il faut y être pour entendre le Ham Israël qui a entendu ce shofar Agadol. Toda Rav.
Bien fait, Toda. David! On ne t'entend pas, David.
T'es en mute, David.
Ah, mais
Comment ça peut
technique,
arriver?
je suis plus la technique, j'y arrive plus.
C'est ça.
Est-ce que
Il a perdu, il a
aujourd'hui,
perdu.
il y a encore du kavod pour le Rav Kook et pour sa Torah? Est-ce qu'aujourd'hui, alors je ne dis pas le petit Bahour Yeshiva de 18 ans qui étudie Bahorot, mais est-ce que dans les yeshivot, où c'est des gens qui sont quand même plus conscients de ce qui se passe aujourd'hui, ils étudient le Rav Kook et le respectent?
De quel échiot tu parles?
Non, les chivotes, Bnei Brak, Maharim, tout ça. Est-ce que je vous parle pas des petits jeunes, je vous parle de grands rabbinim qui étudient, qui tuent aussi la Emouna, si tu dis aussi du Rav Kook.
Écoute, je paraphrase le Rav Cherki qui disait, si vous saviez le nombre de gens à Bnei Brak qui écoutent mes cours sur le Rav Kook, voilà. Maintenant, est-ce que dans la yeshiva, ça va être dans le Seder Alimoud? Malheureusement, je pense que non. Mais en vrai, je vais même te dire un truc qui est un témoignage, Makor Rishon. Dans ma synagogue, depuis que je suis devenu le rabbin de la synagogue, il y a maintenant 6 ans, la première chose que j'ai mis en place, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'était de faire un shiour entre Mincha et Arvit de Shabbat. Donc on fait Seouda Shlichit, shiour, donc on mange vite fait, et ensuite on a 50 minutes, 45 minutes de shiour. Et donc j'ai dit, on commence à étudier Oroth du Rav Kook. Aujourd'hui, donc on est après 6 ans, on est seulement arrivé à la dernière partie qui s'appelle Oroth Israël. Donc on avance là, mais tout ça pour dire que est arrivé dans notre synagogue depuis le Corona un nouveau personnage qui était arrivé à Jérusalem depuis 1 an et qui a découvert notre synagogue parce qu'on priait dehors pendant le Corona et donc il nous a découvert, machin, il est venu, il habitait à côté. Et c'est un homme qui est religieux, qui est de chez nous. Qui a grandi sur les genoux du Rav Drukman. Ça veut dire mamash. C'est-à-dire qu'il habitait à Merkaz Shapira. La maison de sa mère, de ses parents, était en face de la maison du Rav Drukman. C'est-à-dire que tu n'as pas plus grand élève du Rav Tzvi Yehuda Kouk, et donc de la pensée du Rav Kouk, que le Rav Drukman. Eh bien, me dit cet homme-là, qui a 70 ans, il me dit, depuis que je suis venu dans cette communauté, c'est la première fois que j'étudie le Rav Kouk. Le Rav Drukman, il citait le Rav Kouk, mais jamais on étudiait à Or Etzion le Rav Kouk à la Seder. Il y avait du Rav Kouk un peu partout.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je pense que très. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça partout. Hein. Vous demanderez au Rav Cherki. Je ne sais pas. Je ne peux que vous transmettre le témoignage que j'ai reçu. Mais je pense que les rabbins qui avaient étudié le Rav Kouk avaient peut-être peur, et à mon avis à tort, que les gens ne comprendraient pas. Il y a une espèce de bulle comme ça d'énergie.
Ne pas comprendre, ça veut dire devenir chilonime.
Non, bah, je ne sais pas. Peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas de quoi les gens avaient peur. Mais il y a cette tendance à dire que le Rav Kouk, c'est trop compliqué, on ne peut pas comprendre. Alors, c'est un langage qui est compliqué, certes, mais c'est comme tout. Tu t'habitues à un langage, tu apprends les mots-clés, et si tu ne comprends pas un mot, et bah, tu vas demander. Étudier le Maharal de Prague, c'est compliqué, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas l'étudier.
On a peur de la Kabbalah. Le mot lui-même, j'ai dans ma Keïla, ne veulent plus entendre, ne veulent pas entendre ce mot qui s'appelle Kabbalah.
Oui, mais
les
l'avantage du Rav
mystiques,
Kouk,
c'est pas pour nous. Voilà.
Mais vous avez
c'est
raison
ma
qu'il y a cette
Keïla.
Peur-là. Mais le Rav Kouk a cela de fort qu'il
il
n'utilise pas
démystifie.
le mot Kabbalah.
Oui, il le dit
que,
pas, il le démystifie aussi.
Oui, mais tout
voilà,
le monde sait que c'est.
Alors, certes, si vous étudiez au Rota Kodesh, il y aura
c'est
plus
plus de
de
la
Kabbalah
Kabbalah.
dedans.
Peut-être
Donc,
laissez le
oui,
reparler
bien
s'il vous
sûr,
plaît.
mais c'est de la Kabbalah qui a été traduit en langage qui est compréhensible. Donc voilà, est-ce qu'il y a du kavod? Oui, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui étudient le Rav Kouk qu'avant. Bien sûr.
Je pourrais vous demander, le Rav Kouk, quel est son prénom, les prénoms du Rav
Ah,
Kouk?
le Rav Avraham Yitzhak, mais ça c'était dans le cours d'avant, c'est pour ça que je ne
Avraham
peux pas vous dire.
Yitzhak, oui. J'ai
Avraham
raté.
Yitzhak à Cohen Cook.
Rav, une question sur ces élèves justement. Aujourd'hui, après, on va dire, pour schématiser, il y a deux tendances dans les yeshivas du Rav Kouk. Pourquoi? Alors, on voit que le Rav Kouk, il a une Torah qui est kolélète et qui ça veut dire les deux tendances, elles sont comprises aussi, elles sont incluses déjà dans le Rav Kouk. Mais pourquoi il n'y a pas cette unité? C'est-à-dire que, à quel moment?
Tu peux me permettre de te poser la question, c'est quoi les deux tendances?
Non, mais c'est-à-dire les Kavnikim et les Aramor et.
Ah, je te taquine, hein, je savais que tu parlais de ça. Je vais te dire quelque chose que je pense profondément, d'accord? C'est pas parce que vous savez de qui je suis l'élève, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2024, la tendance qui continue la pensée du Rav Kouk, c'est le Rav Cherki. C'est ni Merkaz Arav, ni Aramo. Et pour une raison très simple, à Merkaz Arav, alors je vous raconte des choses qu'on m'a racontées, hein, moi je n'ai pas vécu ça. Moi, quand j'étais à Merkaz, c'était déjà depuis longtemps, la scission avait déjà commencé depuis longtemps, évidemment. Moi, je suis arrivé à Merkaz Arav la dernière année de Reb Avroum Shapira. Donc, autant vous dire que c'était pas au début des choses. Mais Reb Avroum, déjà à son époque, les gens avaient du mal à le voir comme étant l'élève du Rav Kouk parce qu'il était un produit avant de l'ambiance litaï. Alors qu'en fait, c'était un produit aussi du Rav Kouk. Face à cela, il y avait Aramor avec le Rav Tao. Et le Rav Cherki nous avait dit que le Rav Tao était tout le temps en machloket avec le Rav Tzvi Yehuda. Alors en machloket, avec respect et tout ce que vous voulez, mais en machloket. Et qu'il m'a dit, c'est quand même fou que ce qui était une machloket, une controverse perpétuelle, aujourd'hui on en est fait le Mamshir Darko. C'est quand même très compliqué. Donc oui, je pense profondément que celui qui aujourd'hui, alors il n'est peut-être pas le seul évidemment, mais celui qui continue la Torah du Rav Kook, c'est le Rav Cherki. Maintenant, quand on va continuer dans notre épopée de l'histoire de la Kabbalah, on va voir que parmi les élèves du Rav Kook, eh bien, il y a trois grands pôles qui vont continuer le Rav Kook. Puisque la Torah du Rav Kook, elle est Kohelet, mais elle est Kohelet trois grandes dimensions qui s'appellent Eretz Israël, Torah Israël et l'humanité, si vous voulez, Am Israël comme étant le représentant de l'humanité. Eh bien, il va avoir trois grands élèves qui vont être tous les trois dans les trois, mais qui vont chacun avoir une petite spécialisation, on va dire. D'un côté, le Rav Harlap, qui sera le gardien de la Torah. Le Rav Tzvi Yehuda, qui sera celui qui va instaurer le mouvement du retour à la terre, et le Rav Anazir, le Rav David HaKohen, qui sera le grand humain parmi les humains. Mais Kitzo, donc c'est dur de continuer à être le Rav Kook quand on n'est plus le Rav Kook.
Araf, je vous préviens qu'il y a des demandes d'élèves d'étudier aussi sur le Rav Tzoukorman, sur des rabbanim
Le
assez
monde,
actuels,
les amis, mais vous êtes
sur le
marrants.
sur... Ah.
Mais c'est hier, le Rav Tzoukerman,
Oui,
on n'y est pas
mais
encore.
ça fait partie de l'histoire, voilà, sachez-le.
Il n'y a pas de problème, mais vous voulez quand même pas qu'on aille trop
Non, mais après,
vite.
voilà, on veut arriver jusque-là, quoi.
Ah, mais c'est évident, c'est
Ah,
évident.
on est d'accord.
C'est pas la question. Et je vous dirai
Le dernier
ce que
cours,
je
ce
me
sera
suis
celui de Rav
pris du Rav
Cherki.
Tuckerman quand je lui ai demandé un jour, du haut de mes deux semaines et demie de yeshiva, où je lui ai demandé peut-être qu'on peut étudier le Rav Kook. Et je vous raconterai comment le Rav Tuckerman il m'a reçu.
Non.
C'était un non avec des rayons laser
Non, mais
dans ses
j'ai
yeux.
eu les mêmes.
Pourquoi Lama? Pourquoi?
Parce
Pourquoi?
que quand quelqu'un il sait pas encore marcher, tu vas
Ah
pas
oui, d'accord.
commencer à lui faire faire
À
un marathon.
courir. Ok.
Il faut un peu de l'athlète.
Dan, vous aviez une question?
Oui, bonjour Raphison.
Bonjour.
C'était très intéressant parce que par rapport au début de votre cours, c'est-à-dire l'évolution du peuple juif, on a eu 2000 ans où il y a eu de l'étude de la Torah, la petite Torah entre guillemets, et on est passé là sur les 70 ans à un Torah de nationalisme et de sionisme et d'aller sur la terre. Mais est-ce que cette étape qui est phénoménale, on a eu besoin, enfin je pense que vous n'avez pas la réponse, est-ce qu'on a eu besoin de la Shoah pour y arriver? On n'aurait
Du
pas pu y
tout.
arriver
Ah, j'ai la réponse
différemment.
complètement. Pas du tout. On n'avait
Non.
pas du tout besoin de la Shoah. D'abord, la
Heureusement.
preuve en est, c'est que le processus de retour à la Terre commence bien avant la Shoah, bien avant, et que le retour du peuple juif sur sa terre est une nécessité de l'histoire, comme dit le Rav Cherki, alors que la Shoah n'était qu'une éventualité de l'histoire.
N'a
T'as
pas
pas eu
eu
ça
un effet
aussi?
accélérateur?
Ah, c'est sûr! C'est sûr que la Shoah a été un catalyseur pour aller plus vite. C'est évident. Ça, historiquement, on peut pas le nier. Mais est-ce que ça veut dire qu'on était obligé de passer par là, à Tchouvaï? L'eau.
Non, heureusement.
Il y a des mains levées, mais il est 10 heures.
Alors, il est 10 h et
Ok,
on va
c'est juste pour.
attendre le Rav
Donc, je sais pas, si le Rav il
Cherki.
est pas là, on peut, mais si le Rav il est là.
Juste une question importante pour la transmission, s'il vous plaît. Vous m'entendez?
Je
Vous
vous entends.
entends.
Le Rav Cherki est là, je suis vraiment désolé.
Ah, mince. Ok.
Et vous
Voilà,
devez.
notez-la et vous la poserez en début de cours la semaine prochaine.
Ok.
Bon déménagement. Merci.
Les attachés.
Merci.